Chers auditeurs, dès que l'armistice fut signé le 24 juin 1940, Mgr von Sternberg demanda à ses prêtres d'abandonner l'oraison impérée pour le temps de guerre et de garder celle qui était prescrite contre les païens, avec la possibilité de la remplacer par l'oraison pour les prisonniers, à laquelle, ajoute-t-il, la situation probable de plusieurs de nos prêtres et la situation certaine d'une partie du diocèse confèrent une douloureuse actualité. Le rempart avait cédé et la barbarie avait envahi la moitié de la France. Le labour et la majeure partie de la Basse-Navarre en étaient prisonniers. La ligne de démarcation allait d'Arnégui jusqu'à Orthès, en passant par Saint-Jean-Pied-de-Port, Varsovo et Salis de Béarn, ce qui évidemment compliquait l'administration du diocèse. Même l'évêque avait besoin d'une autorisation spéciale pour franchir cette ligne, gardée aussi sévèrement qu'une frontière. Mgr von Sternberg tourna la difficulté en nommant un vicaire général pour la partie non occupée du diocèse. L'évêque partagea l'attitude de beaucoup de catholiques quand se produisit la catastrophe qui avait englouti le régime honni de la Troisième République. Évêques et prêtres avaient tendance à y voir un juste châtiment de l'oubli de la loi divine par les Français et surtout par leurs gouvernants. Si la France voulait sortir du chaos, elle devait retrouver ses racines chrétiennes et revenir au respect des valeurs spirituelles. Or, c'était justement le langage et le programme que semblaient vouloir adopter et suivre les dirigeants installés à Vichy. Si l'on ajoute à cela le prestige extraordinaire du maréchal Pétain, crédité du pouvoir de sauver la France, il n'était pas étonnant de voir la hiérarchie catholique, comme la quasi-totalité des Français, se montrer favorable au nouveau régime. Loyauté sans soumission était l'attitude officiellement définie par l'Assemblée des cardinaux et archevêques de France. Mgr von Sternberg s'y rallia sans difficulté, mais ne manquera pas de rappeler la nécessité de donner une dimension spirituelle à l'organisation politique de l'État. Le 14 juillet 1940, il rédigeait et publiait une lettre pastorale assez courte qu'il adressait aux clergés et aux fidèles pour les inviter à prier pour la France à l'occasion de la refonte des institutions. Vous demanderez à l'Esprit-Saint de présider à la réorganisation de notre chère patrie en éclairant ses chefs et en les soutenant dans leurs efforts, lui qui est l'esprit de sagesse, d'intelligence, de conseil et de force. Mgr von Sternberg restera fidèle à la ligne tracée par les cardinaux et archevêques de France jusqu'à ce que le gouvernement de Vichy s'oriente vers une collaboration plus étroite avec l'occupant et adopte un comportement inspiré par ce dernier. La vie du diocèse se ressentait des difficultés qu'entraînait la présence des troupes allemandes dans la partie occidentale du diocèse et puis à partir de novembre 1942 sur tout son territoire. Beaucoup de familles avaient un être cher prisonnier en Allemagne et vivaient dans l'anxiété. La peur de l'occupant, en particulier celle de la Gestapo, et ses réactions brutales au moindre incident paralysaient les esprits. Le ravitaillement demeurait de plus en plus difficile, et surtout en ville, et la pratique du marché noir en venait à émousser peu à peu les consciences. On ne savait pas de quoi demain serait fait. Dans ce contexte de difficultés et de peur, on se tournait volontiers vers la prière, et beaucoup reprenaient le chemin de l'Église, d'autant plus facilement que les distractions étaient rares et ne détournaient pas des réflexions salutaires. les divers mouvements d'église s'adaptèrent aux circonstances et y trouvèrent même l'occasion d'une vitalité accrue, en particulier dans l'aide aux prisonniers et aux plus démunis, et même dans une activité apostolique rendue plus nécessaire et plus urgente en raison de l'absence de prêtres. En cet été 1940, le diocèse de Bayonne pouvait se réjouir de voir un de ses prêtres élevé à l'épiscopat. Le 27 juillet, le chanoine Pierre Théas, directeur du séminaire de Bayonne, avait été nommé évêque de Montauban. Mais les malheurs de la patrie ne portaient pas les cœurs à l'allégresse. De plus, les paroisses de Guétary, de Saint-André de Bayonne et de Saint-Jean-Pied-de-Port pleuraient leur vicaire, mort dans les combats, et l'on déplorait la disparition de 7 séminaristes tombés également au champ d'honneur. Le sacre de Mgr Théas eut lieu à la cathédrale le 3 octobre au cours d'une cérémonie qui se déroula sans les fastes habituels, mais qui rassembla une foule nombreuse et fervente. Un grand nombre de prêtres avaient pu rejoindre leur paroisse ou leur collège après la démobilisation. Il ne restait plus cependant qu'une centaine de prêtres derrière les barbelés, 150 en comptant les séminaristes. La rentrée du séminaire avait été fixée au 1er septembre pour les élèves de philosophie et au 30 septembre pour ceux de théologie. Mais le 6 octobre, Mgr Vanstenberg annonçait dans le bulletin diocésain que le grand séminaire était réquisitionné et était destiné à devenir une caserne. Une semaine plus tard, tous les séminaristes étaient invités à revenir à Bayonne le samedi 19 octobre et à se rendre directement au grand séminaire à la Villa Sainte-Croix, où on allait leur indiquer la maison qui devait les loger. Commençait ainsi pour eux une vie d'errance qui allait les mener de Saint-Louis de Gonzague à la Villa L'Étoile au quartier des Arènes pour aboutir au pays de Cise. À la rentrée de 1942, les étudiants de philosophie s'installèrent à l'école Mayorga de Saint-Jean-Pied-de-Port. À la Noël, ils durent préparer un déménagement pour s'établir à la citadelle, mais ce ne fut qu'une fausse alerte. Les élèves de théologie trouvèrent un asile à quelque distance de là, à la fondation Lureau d'Ispour. Les pensionnaires de la maison de retraite ayant accepté de se serrer un peu pour accueillir les séminaristes, tandis que les saints diacres allaient loger dans une maison voisine. À la rentrée de 1943, on leur permit d'occuper un étage au grand séminaire de Bayonne. Des conditions de vie aussi précaires devaient influer sur la formation et la persévérance de quelques séminaristes, mais elles n'affectèrent ni le sérieux ni la fidélité de la plupart d'entre eux. En 1941, 5 prêtres furent ordonnés. Il y en eut 14 en 1942 et 30 en 1943. Au diacre s'étaient joints cette année-là les séminaristes de la sous-classe qui auraient dû recevoir le sacerdoce l'année suivante, mais que Mgr Vanstenberg décida d'ordonner à la fin de leur séjour à Ispour pour leur éviter le travail obligatoire, ou bien, s'ils ne pouvaient y échapper, pour être à même d'exercer un ministère auprès de leurs camarades. Parmi les mouvements d'action catholique, ce fut la JAC qui bénéficia de l'exaltation officielle du monde rural prônée par Vichy. Cependant, les mouvements de jeunesse durent se défendre contre les pouvoirs publics qui pensaient les unir tous sous l'égide du ministère de la jeunesse. La Ligue féminine d'action catholique, sans négliger la formation d'une élite qui devait entraîner la masse, concentra ses activités dans le domaine de l'entraide. C'est dans l'enseignement que le changement par rapport à la Troisième République fut le plus sensible et le plus apprécié. L'enseignement privé était désormais reconnu pour les services qu'il avait déjà rendus et qu'il pouvait encore rendre à l'avenir. Une mesure que les Basques apprécièrent particulièrement fut l'introduction de la langue et de l'histoire basque à l'école primaire. Nous verrons la prochaine fois la résistance doctrinale de Mgr Van Steenbergh et la fin de son épiscopat.